France Culture, entendez-vous l'écho. Aliatovine.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la 9e saison d'Entendez-vous l'écho. Et oui, déjà. Et en cette rentrée, quelques mots s'imposent pour vous présenter quelques nouveautés. Entendez-vous l'écho aura bien lieu en direct à 14h et tous les lundis désormais. Vous retrouverez mes collègues Aurélie Luneau, Louise Touré, Sylvain Bourmeau et François Saltiel à la même heure tous les autres jours de la semaine. Nouvelle temporalité, donc nouveau format aussi pour l'heure que nous allons passer ensemble. Nous reviendrons dans une première partie sur l'actualité économique avec deux invités, puis dans un second temps, c'est à l'histoire des idées et des faits économiques que nous nous intéresserons avec une chercheuse ou un chercheur afin de comprendre comment la discipline économique a construit, a produit des connaissances, des savoirs, des concepts qui aujourd'hui encore sont mobilisés et nous aident à comprendre le monde qui nous entoure. Et à la fin de l'émission, nous retrouverons l'économiste, historien et directeur d'études à l'EHESS Arnaud Aurin, qui vous propose désormais de tirer le fil de l'écho et tisse pour nous les liens entre actualité et histoire. Ce sera à 14h55. Et cette année, j'ai la chance d'être accompagnée par une équipe de choix. Un grand merci à Tina Young qui a préparé cette émission et à Camille Maty qui la réalise. Et aujourd'hui, c'est Timothée Hubert qui assure la mise en onde. Et tout de suite, on s'immisce au cœur des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne et qui ont fait couler beaucoup d'encre cet été.
We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world.
C'est un accord énorme. Il va apporter de la stabilité, de la prédictibilité. Et c'est très important pour les entreprises des deux côtés de l'Atlantique.
Accord déséquilibré, dit déjà le gouvernement français.
Le Premier ministre parle même de soumission.
La France a accepté l'inacceptable, titre Libé.
Coup dur pour les vignerons français. Le vin qu'ils exportent vers les États-Unis sera désormais taxé à 15%.
Il ne s'agit pas d'un accord conclu entre le président Donald Trump et Ursula von der Leyen. Ce qu'il s'est passé, c'est que Donald Trump a mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner. C'est cela qui s'est passé.
La menace de droits de douane plus élevés a porté ses fruits. C'est donc assurément une victoire politique pour le président des États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus.
I think it's great that we made a deal today instead of playing games. I'm going to let you say, but I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations.
Le plus grand deal jamais passé, voilà comment Donald Trump a qualifié l'accord qui a été signé le 27 juillet dernier à Turnberry en Écosse, accord signé avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui a déclaré elle de son côté avoir fait du mieux que l'on pouvait, et les réactions des principaux concernés ne se sont pas fait attendre. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a estimé que les intérêts fondamentaux de l'Europe avaient été préservés. Trump, en revanche, aurait mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner, c'est ce qu'on entendait à l'instant dans la bouche du Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'Europe ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. Voilà comment Emmanuel Macron a de son côté analysé la situation. Et lorsque jeudi dernier, on apprenait via la déclaration commune publiée par l'Union européenne et l'administration américaine que le secteur du vin et des spiritueux ne serait in fine pas exempté de ses droits de douane, là encore la déception était au rendez-vous. Le commissaire européen au commerce, Markus Šefčovič, a admis n'avoir tout simplement pas réussi. Bref, l'avenir commercial tel qu'il se dessine pour l'Union européenne est loin d'être rose et surtout est loin de faire l'unanimité. Toutes ces réactions témoignent d'une crainte plus générale. Le nouvel ordre commercial imposé par Donald Trump est entré pour partie en vigueur le 7 août dernier. Risque-t-il de mener à une fragmentation économique de l'Europe? Que raconte-t-il aussi de la puissance européenne et de sa capacité à s'imposer sur la scène internationale diplomatique et commerciale? François Schmitz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des projets Europe à l'Institut Montaigne. Alors, peut-être un premier mot sur l'accord cadre tel qu'il a été présenté le dimanche 27 juillet, puisqu'on va partir de ce point-là pour s'y retrouver aussi. On a beaucoup dit qu'il instaurait des droits de douane sur les produits européens à destination des États-Unis de l'ordre de 15%. Donc, jeudi dernier, je le disais, Washington et Bruxelles en ont présenté certains détails. Est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément de quels produits il s'agit là? Qu'est-ce qui est certain pour le moment? L'exécutif européen parle d'un taux all-inclusive, que faut-il comprendre par là?
Alors, cette dynamique et cet accord s'inscrit plus largement dans un virage protectionniste extrêmement prononcé, marqué par la nouvelle administration Trump, dont, on va dire, l'élément le plus symbolique a été ce Liberation Day Tariffs, qui a donc vu les États-Unis imposer à peu près au monde entier des droits de douane allant dans un premier temps de 15 à 20% grosso modo, en large majorité, puis ensuite étant gros, environ doublé par la suite, qui a conduit fin juillet à un élan d'accord signé en grande pompe par une administration Trump qui se caractérise par ce goût de la mise en avant de son leader comme étant au centre de toute l'attention et étant le grand maître de toutes les horloges de la mondialisation. En tout cas, c'est comme ça qu'il souhaite le présenter. Et dans le cadre de ces accords, nous avons vu donc l'Union européenne se voir imposer et donc accepter accepter exactement 15% de droits de douane sur la quasi-totalité de ses exportations. Et c'est là il y a une légère précision à apporter qui est un poil technique. Ce taux de 15% est le taux, on va dire, plafond, appliqué à la totalité des exportations européennes vers les États-Unis, au contraire de beaucoup d'autres accords commerciaux où en fait on a uniquement un taux d'augmentation. Et donc par exemple, dans des accords assez souvent cités tels que le Royaume-Uni ou le Japon, il y a une hausse de plus 10%.
Par rapport à ce qui était préexistant,
exactement. Or, comme la majorité de ces pays, l'Union européenne y compris, avait environ un taux précédent autour entre 3 et 5%, on se retrouve à un taux effectif relativement similaire. Il faut insister quand même que selon toutes les informations qu'on a, qui sont encore assez incomplètes, l'Union européenne a obtenu le meilleur des accords existants en l'état fournis par cette seconde administration Trump, puisqu'elle se voit exempte sur tout un certain nombre de produits assez stratégiques pour les Européens de ces hausses de taux, et elle se voit appliquer les taux antérieurs qui étaient souvent sur ces produits entre 0 et 2%. Ça touche aussi bien l'aérospatial que les biens de technologie ou la pharmaceutique. Hélas, en effet, comme vous l'avez indiqué, en particulier pour nous, Français, nous espérions que cela couvre aussi les vins et spiritueux. En l'état,
on peut confirmer que ce second round, il y en aura d'autres. Alors, on l'a compris, il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y a le fond et la forme. Vous avez insisté là-dessus, François Schmitz. Et puis, il y a des éléments plus techniques dans lesquels on va essayer de rentrer plus en détail, et notamment avec vous, Sylvie Matelli. Vous êtes économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors. Votre géopolitique de l'économie sera rééditée chez Erol en janvier 2026. Alors, pour continuer un tout petit peu dans ces détails techniques, parce qu'il faut bien en passer par là pour bien saisir les enjeux de ce dont on parle aujourd'hui. Le taux de 15%, si on comprend bien, englobe les tarifs dits NPF. Ce sont les tarifs dits de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire les taux de droits de douane qui étaient initialement pratiqués et auxquels sont venus s'ajouter les surtaxes en fonction des annonces un peu en pagaille aussi de Donald Trump ces derniers mois. Très concrètement, depuis l'accord du 27 juillet, qu'advient-il de ces tarifs NPF ? Est-ce qu'il faut le voir finalement comme une sorte de victoire ou en tout cas de moindre mal ? Parce que, comme le disait François Schmitz à l'instant, finalement ces 15%, bon, quand on se compare, on se console, mais aussi par rapport à ce qui préexistait avant, c'est pas un changement majeur finalement.
Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, c'est pas un changement majeur à quelques détails près, somme toute, parce qu'on est les mots qui sont employés par la Commission européenne sur son site pour expliquer ce 15%, c'est le taux maximal unique et global de 15%. Ça veut dire que à partir du 1er août, puisque je crois que il y a un effet rétroactif et cet accord s'applique au 1er août, à partir du 1er août, tout produit sauf exemption dont on a déjà parlé, qui européen, qui franchit les douanes américaines, se voit taxé, puisque le droit de douane est une taxe de 15% et donc coûte sur le sol américain 15% supplémentaire. Certains se sont permis de rajouter à très juste titre qu'il faut aussi additionner la revalorisation de l'euro, puisque l'euro, depuis ces derniers mois, s'est renforcé par rapport au dollar et ça devrait continuer. Et là aussi, c'est lié à des choix politiques de Trump et à la politique à la fois budgétaire et d'endettement des États-Unis qui affaiblit le dollar, mais également à la politique monétaire, et on voit qu'il est dans une guerre avec Jerome Powell. Mais ça, on pourra y revenir.
Ce qui est un autre sujet.
Ce qui est tout à fait un autre sujet, mais qui tout est lié en réalité. On est dans une stratégie politique, comme vous l'avez dit, de redéfinir, moi j'irais même au-delà de l'ordre mondial, d'un ordre économique en général, et de la place des États-Unis et de l'avantage comparatif des États-Unis dans cet ordre global. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ça va fonctionner ou pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, les produits européens coûtent plus cher, mais comme effectivement, et comme vous l'avez très bien souligné dans votre réponse précédente, l'Union européenne a obtenu le, je ne vais pas dire le meilleur accord, je vais dire le moins mauvais accord avec Donald Trump. Elle a obtenu un accord, c'est déjà ça, c'est le moins mauvais. Eh bien, il est évident que ça creuse aussi les avantages comparatifs entre nos partenaires et nous. Finalement, les Européens ne s'en sortent pas si mal. On pense en particulier à l'automobile qui, au départ, était la grosse incertitude de cet accord. Le secteur automobile européen qui était à ce jour taxé à 27,5%, qui revient sur les 15%, au grand soulagement, entre guillemets, des industriels allemands. De la même manière, le secteur de la pharmacie, avec des génériques qui sont exemptés, c'est une très bonne nouvelle pour les Irlandais. Donc, on a fait du mieux qu'on pouvait. On avait trois scénarios, en fait, hein, en face de nous, depuis début avril et ce Liberation Day. Le scénario de ne rien faire et de continuer sur la base de 30% de droits de douane. Le scénario de négocier. Et de négocier un accord, quel qu'il soit, et on se doutait qu'il ne serait pas très favorable à l'Union européenne. Et puis le scénario de la guerre commerciale. Et dans ce scénario de la guerre commerciale, il n'est pas certain que nous ayons pu obtenir mieux ou que nous ayons pu réussir à avoir moins de dégâts que ce que produira cet accord, parce que 15% de droits de douane, ce n'est quand même pas rien. Et au moins à court terme, ça va avoir des conséquences économiques qui ne sont pas insurmontables pour les Européens. Je pense que les conséquences politiques et stratégiques sont probablement beaucoup plus ennuyeuses, mais qui va avoir des conséquences malgré tout.
Et vous faites bien, Sylvie Matelli, de préciser qu'il y avait un contexte qui permet de jauger si oui ou non il s'agit d'une victoire ou en tout cas d'un moindre mal. C'est qu'effectivement, il y avait cette menace qui pesait, on va dire, de passer à un taux de 30%, ce qui aurait pu être le cas si effectivement aucun accord n'avait été trouvé. Sylvie Matelli, une petite précision toutefois, on parle d'accord depuis le début de cette émission. Quelle valeur juridique ça semblait compliqué à comprendre. Il y a eu un accord le 27 juillet, on voit qu'il y a quelques jours, jeudi dernier, il y a eu un nouvel accord sur l'accord, mais qui ouvre la voie à de nouveaux accords. Donc quelle valeur accorder à ce qui est en train d'être dit, ce qui est en train d'être énoncé de la part à la fois de l'exécutif européen, mais aussi de l'administration Trump?
C'est une vraie question. Alors, je ne suis pas juriste et je me prononcerai pas sur la précision de la dimension juridique. Mais ce qui est certain, c'est qu'au départ, c'était un accord oral entre Donald Trump et Madame von der Leyen, écrit sur un petit bout chiffonné que Donald Trump a glissé, qu'il a lu et qu'il a glissé dans sa poche. Depuis quelques jours, nous avons 4 pages avec les détails précis de ce qui a été négocié. Rien à ce jour n'a été signé en réalité.
Donc, tout reste encore à négocier et d'autant plus, François Schmitz, que des calculs sont encore en cours au sein de l'administration Trump qui agit au titre du Trade Expansion Act, c'est la loi de l'expansion du commerce de 1962 et de sa section 232, une section qui autorise le président américain à enquêter et à taxer les importations susceptibles de constituer un risque pour la sécurité nationale. Reste donc encore à enquêter pour savoir qui représente une menace aux yeux des États-Unis. Quels sont les secteurs menacés d'être une menace finalement, François Schmitz?
Alors, sous l'administration Trump, vous aviez déjà eu 2 secteurs qui avaient déjà été touchés par, on va dire, ces droits de douane au titre de la sécurité nationale, pour parler un peu rapidement. Vous aviez déjà l'acier et l'aluminium durant le premier mandat, puis ensuite rehaussé au début du mandat jusqu'à 50%, qui sont les taux qu'on connaît aujourd'hui, donc sur l'ensemble des importations des États-Unis depuis tout le reste du monde. Et ensuite, une ouverture d'enquête au début de son second mandat sur l'automobile et les pièces automobiles qui avaient donc vu les droits de douane de 25% de hausse, donc en droits de douane effectif pour les Européens, 27,5. À cela s'ajoutent en fait 7 autres enquêtes qui ont été ouvertes, en fait qui sont des enquêtes sectorielles. Et c'est là où il faut voir une certaine logique dans l'approche de Trump sous son second mandat. Il existe une velléité protectionniste, on va dire horizontale, qui s'applique à tous les partenaires et qu'on a vu à l'œuvre depuis maintenant quelques mois, qui consiste à grosso modo fixer un niveau plancher donc autour des 15%, qui est celui qui s'applique à l'Union européenne, plus un peu plus en fonction, on va dire, des préférences de la Maison-Blanche vis-à-vis du partenaire spécifique, en essayant à chaque fois d'obtenir un maximum de concessions économiques et extra-économiques, notamment géopolitiques, lors de ces discussions-là. Et à cela s'ajoute une approche, on va dire, verticale, sectorielle, qui touche donc ces 9 secteurs. Il y a donc l'éolien, les produits du bois, le cuivre, les semi-conducteurs, la pharmaceutique, les minéraux critiques et les drones. Et pour la majorité de ces secteurs-là, donc pour les 7 que je viens d'évoquer, ces enquêtes sont encore en cours. On est à peu près certain, étant donné les préférences de la Maison-Blanche et, on va dire, une approche particulière du rapport au droit, que ces enquêtes aboutiront sur des droits de douane, qui trouveront suffisamment d'éléments pour étayer leur velléité protectionniste. Et c'est là d'ailleurs qu'une des vertus, si on peut en souligner quelques-unes quand même de cet accord qui est inique, hein, il faut bien le reconnaître, c'est que justement ce plafond de 15% devrait normalement s'appliquer à tous les produits européens, quel que soit le résultat de ces enquêtes-là. Et donc, il risquerait d'y avoir un avantage concurrentiel des productions européennes sur le marché américain vis-à-vis des autres partenaires qui, eux, pour le moment, en tout cas, ne semblent pas bénéficier de cette, on va dire, de ce plafonnement de fait. Bien évidemment, tout cela étant encore sujet à caution, puisque beaucoup, beaucoup d'incertitudes existent. Et à cet égard, il faut quand même, je pense, comprendre la logique d'ensemble que j'essayais de donner. Donc, une approche protectionniste horizontale et avec une approche spécifique sur des secteurs que, à tort ou à raison, l'administration Trump juge subjectivement comme d'importance, on va dire fondamentale, stratégique pour son économie et plus généralement, probablement, pour sa géopolitique. Et c'est là-dessus que l'accord, en tout cas, qu'on appelle accord commercial stricto sensu, puisqu'en droit, le terme d'accord commercial a une valeur définie, mais en tout cas, on va dire dans le langage courant, l'accord qu'on a obtenu avec les Américains offre aux productions européennes une certaine visibilité et une certaine stabilité dans des moments particulièrement volatiles de cette mondialisation à la sauce trumpienne.
François Schmitz, Sylvie Matelli a évoqué trois scénarios possibles si... au moment où on a signé ce fameux accord lors du 27 juillet, il y en avait l'idée d'une escalade qui aurait pu continuer indéfiniment, entre autres. Dans une tribune que vous avez publiée dans Le Monde juste après la signature de cet accord, c'était le 30 juillet si mes souvenirs sont exacts, vous dites qu'accepter les 15%, c'était renoncer aux rétorsions que cette grossière entorse au droit international permettait. Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que vous sous-entendez qu'on aurait pu jouer la montre, qu'on aurait pu rester ferme sur nos positions et que le droit international aurait agi en notre faveur ? C'est vrai que ça semble assez optimiste vu le monde dans lequel on se trouve actuellement et qui est en train de dessiner Donald Trump.
Là, je parlais d'un strict point de vue légal. Et l'Union européenne a cette particularité d'être, on va dire, extrêmement attachée à la légalité des choses, largement parce que nous sommes 27 États souverains qui constituons cette Union et que donc, si l'un devait se trouver lésé par une mesure qui ne respecterait pas le cadre juridique, bien évidemment, il pourrait s'en retourner vers les instances compétentes en la matière. C'était vraiment un point de vue strictement légal. D'un point de vue, on va dire, plus réaliste, plus pragmatique, la réalité est que cet accord a simplement mis à nu un déséquilibre majeur du rapport de force que nous avons avec les Américains et que, à ce titre, il est vraisemblable que nous n'aurions pas été en capacité de tenir un rapport de force tel qu'a pu le tenir, et nous avons là un exemple, on va dire, presque en nature, qui est le rapport de force qui a eu lieu entre Washington et Pékin, c'est-à-dire un embargo total pendant 4 semaines du commerce entre les deux puissances. Cela aurait donné très certainement en Europe, des résultats absolument terribles, notamment des fuites de capitaux massives. Et à cet égard, la France, avec son déficit extérieur et surtout son déficit public domestique, apparaît assez mal placée pour prendre des positions extrêmement maximalistes dans un concert européen où un certain nombre de nos partenaires sont un peu plus conscients, on va dire, à la fois au niveau des dirigeants, mais aussi au niveau de la discussion collective, de nos faiblesses et de nos dépendances vis-à-vis des États-Unis. Cela ne veut pas dire qu'on ne pouvait rien faire, mais il faut quand même parfois, hélas, rappeler des constats désagréables à entendre. Et c'est, je pense, là aussi le rôle de beaucoup d'intermédiaires qui essaient de détricoter un monde qui, il faut le dire, s'accélère et est parfois de plus en plus complexe.
Et Sylvie Matelli, est-ce que vous partagez ce constat-là, finalement, qu'on a aussi cet accord, ce compromis a été aussi une occasion de pointer, de mettre en lumière certaines faiblesses, notamment en termes de négociation et de puissance, hein, c'est ce que disait Emmanuel Macron et que je citais en introduction, et raccroché à cette question-là, il faut aussi préciser la façon dont on a obtenu ces 15%. On a aussi formulé des promesses en tant qu'Union européenne, il y avait des engagements d'achat, d'investissement, notamment aux États-Unis, notamment en ce qui concerne le secteur énergétique. On parle de 750 milliards de dollars en matière énergétique d'achat. C'est tout de même assez conséquent. Est-ce que ces raccords, finalement, avec non seulement les capacités de production des États-Unis, mais aussi les besoins de l'Union européenne, est-ce que cette promesse-là était finalement plutôt bien jouée dans le sens où les promesses n'engagent que ceux qui y croient, ou est-ce que c'était encore une fois peut-être préjugé de la puissance européenne qui n'est pas forcément encore avec une forme de réalité ?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Je crois que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, on a eu deux calendriers qui se sont percutés. Un calendrier de long terme qui veut qu'effectivement l'Europe défend le multilatéralisme, est très attachée aux règles de droit. Et sur cet accord-là et dans cet accord-là, et c'est probablement ce qui est le plus ennuyeux, c'est que en signant cet accord, finalement, on valide le fait, on valide la vision de Donald Trump, cette vision qui consiste
à
dire
même langage.
Le commerce est déséquilibré au détriment des États-Unis, etc., etc. Et donc, on accepte de signer un accord complètement déséquilibré où eux nous fixent un plafond de 15% de droits de douane. Nous, on accepte tous les produits américains sans aucun droit de douane. Donc, on voit ce déséquilibre qui est complètement lié à ce rapport de force. Et le deuxième élément qui est tout aussi ennuyeux, c'est que, on s'assied aussi en signant cet accord sur les règles de l'OMC que par ailleurs on défend très fortement. Sauf que ça, c'est l'idéal dans un monde absolu qui va à un rythme que l'on connaissait par le passé et qui n'est plus du tout celui de Donald Trump. Donald Trump, lui, il arrive, il est investi le 21 janvier, le 4 avril ou le 2 avril, je ne sais pas, il nous annonce son Liberation Day avec tout un ensemble de mesures en disant, je crois que c'était au 1er mai, ça rentre en vigueur, il nous donne un petit peu plus de temps jusqu'au mois d'août, mais on voit bien que
c'est lui qui impose le rythme.
Voilà, oui. c'est lui qui rythme les choses. Et je crois que l'idée de la Commission est là pour le coup. Le fait d'avoir des politiques intégrées à montrer toute sa capacité d'action, c'est qu'on a réussi en quelques semaines à négocier un accord. Malgré tout, quoi qu'on pense de cet accord, on a réussi à négocier un accord. Imaginez s'il avait été question de mettre les 27 autour de la table, le Conseil européen, et d'essayer d'obtenir quelque chose, ça aurait été beaucoup plus compliqué et on se serait fait manger encore plus cru que ça n'a été le cas au mois d'août. Donc on est vraiment dans ces deux temporalités. Je crois que au niveau européen, il y a une véritable conscience de cet élément-là et que on joue aussi et dans le même temps la temporalité de plus long terme avec un certain nombre d'accords, de rapprochements avec d'autres partenaires qui sont en train d'être négociés, avec cette idée qu'au fond, on a cet accord aujourd'hui qui fixe les choses, qui fixe quelque chose d'assez, qui donne de la prévisibilité, de la visibilité, si tant est qu'avec Donald Trump,
c'était le grand, grand argument
de la visibilité. Mais il n'empêche qu'il y a cet accord, pour l'instant, il en est super content. Visiblement, il n'est pas prêt de bouger. Rappelez-vous, même en dehors de ce sujet, mais la semaine passée, quand les dirigeants se sont retrouvés à Washington, il s'est quand même permis de dire à Mme von der Leyen que c'était probablement la plus puissante autour de la table. Donc c'est quand même de la part d'un monsieur qui ne comprend rien à l'Europe et qui déteste l'intégration européenne, c'était quand même un beau compliment qui lui était fait. Donc on est dans un moment où, pour l'instant, il est satisfait, ça devrait tenir, mais où il faut effectivement préparer la suite, et c'est bien comme ça qu'a été présenté cet accord par la Commission européenne.
François Schmitz, on l'entendait au tout début de l'émission, les réactions sont quand même assez mitigées. Vous avez vous-même évoqué le fait que tout le monde n'a pas exactement la vision commune, on va dire, entre États membres au sein de l'Union européenne, surtout que, le pire reste à venir, pas forcément, mais de nombreuses choses sont encore sur la table. L'exécutif européen a offert aux États-Unis de travailler pour réduire ou éliminer les barrières tarifaires, de faire preuve de flexibilité dans la mise en œuvre de sa taxe carbone aux frontières, ou encore de faire des efforts pour que les directives européennes sur le devoir de vigilance et le reporting extra-financier n'entravent pas le commerce transatlantique. Tout ça, on pourrait dire que ce sont aussi des valeurs européennes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre une boussole, le peu qu'on avait finalement de boussole européenne ?
Alors, le risque existe, et il est extrêmement souhaité par l'administration trumpienne. Ceci étant dit, je pense qu'il faut comprendre cet accord comme principalement un accord dilatoire. L'administration Trump se retrouvait dans une fenêtre de puissance maximale qui probablement va durer encore quelques semaines, quelques mois, puisqu'il bénéficiait de l'élan naturel d'une nouvelle administration élue qui est particulièrement fort aux États-Unis. Il bénéficiait d'une bonne dynamique économique et il bénéficiait d'une relative unité au sein du Parti républicain du fait du triomphe du président Trump aux dernières élections. Quand on regarde les chiffres de l'inflation, quand on regarde les chiffres du marché du travail, quand on regarde d'ailleurs les différentes décisions de justice encore en cours aux États-Unis, mais quand on regarde aussi l'unité des votes au sein du Parti républicain, on se rend compte qu'il est assez probable que cette fenêtre se réduise assez rapidement. Et quand on regarde la majorité des engagements que vous venez de citer, l'Union européenne a très largement pris des engagements conformes à des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre de manière complètement autonome. Nous sommes en train de recalibrer un peu nos ambitions de réglementation sur tous les différents sujets que vous avez évoqués. Et il est probable qu'on ait mis ça dans la discussion pour obtenir un peu plus côté américain, sans s'engager sur quoi que ce soit de très précis. Et c'est là-dessus que la logique, je pense, dilatoire de l'accord est à la fois une force, puisque ça permet de repousser les problèmes, mais bien évidemment, ça ne fait que les repousser et ça devra amener très rapidement à de nouvelles confrontations où on peut espérer que les Européens soient dans un rapport de force un peu moins déséquilibré dans les mois à venir.
Merci beaucoup à tous les deux, Sylvie Matelli et François Schmitz, d'avoir participé à cette émission.
What we're doing, who we're hurting, we are the only one to blame. Let's try to talk it over, this is where you belong. No more fussing, no more fighting, good morning to our love. A whole lot of hugging, plenty of kissing, just us and the sky above. Let's try to talk it over, 'cause this is where you belong.
C'était Let's Talk It Over, car après tout, il faut savoir se parler, de Tommy Ridgeley sur France Culture. Nous ouvrons désormais le second volet de cette émission, 30 minutes de plongée au cœur des rouages de la fabrique de la science économique.
France Culture, entendez-vous l'écho?
L'économie est une discipline athée, l'économie est une discipline sans Dieu, l'économie est une discipline sans totalité.
Le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante.
Aliétovine.
Tous les lundis désormais, Entendez-vous l'écho vous emmène en seconde partie d'émission pour une exploration curieuse et libre de ce que l'économie, dans toutes les acceptions du terme, peut apporter à la compréhension du monde qui nous entoure. Pour cela, nous allons remonter aux origines de concepts, d'idées dont les économistes se sont saisis et tracer ainsi une histoire de la façon dont se construisent les savoirs et comment aujourd'hui encore la recherche en économie permet de mieux saisir un monde en perpétuel mouvement. Alors pour commencer, une question se pose. Fondamentale, quel crédit accorder à cette science relativement récente et à celles et ceux qui la pratiquent? Sur quoi repose cette expertise dont ces derniers se réclament? Pourquoi donc, en somme, prêter l'oreille à l'écho? Car l'économie n'est pas une science neutre et sa fabrique est un parcours jalonné de biais, choix de données étudiées, modèles capables de les compiler et d'en tirer des enseignements, usage de la théorie dans la pratique et inversement, mais aussi obsession des économistes qui raisonnent en fonction des cercles qu'ils fréquentent. Entre autres, tout cela joue sur l'élaboration des faits et des savoirs. Et ce sont ces rouages que nous allons démonter aujourd'hui avec notre invitée, Béatrice Charrier. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation. Béatrice Charrier, vous êtes historienne de l'économie, chargée de recherche au CNRS. Vous êtes également professeure à l'École Polytechnique. Et parmi vos publications et autres billets que l'on peut retrouver, entre autres, sur votre blog, dont je recommande très fortement la lecture, vous vous demandez, par exemple, pourquoi certains économistes sont obsédés par les courbes, comment l'économie mainstream est justement devenue mainstream, comment l'informatique et les ordinateurs ont transformé les sciences économiques. Celles et ceux qui vous suivent de près savent que vous avez passé une partie de l'été dans les archives. Votre bureau a même un jour côtoyé l'espace de travail qui fut un jour celui de Virginia Woolf. Un premier mot peut-être, Béatrice Charrier, sur ce travail d'archives que vous menez en ce moment et sur ce qu'il dit aussi de la façon dont vous concevez votre travail d'historienne de l'économie. Finalement, être historienne de l'économie, en quoi cela consiste ?
Alors déjà, je voulais dire mes pensées pour les salariés de Radio France qui négocient en ce moment de pouvoir continuer à produire toutes ces émissions très importantes pour comprendre l'état du monde en toute indépendance. Et je pense qu'on va reparler de l'indépendance de la recherche et des données dans cette émission.
Oui, car je précise qu'il y a un mouvement de grève actuellement à Radio France qui touche un certain nombre de programmes.
Voilà, exactement. Ensuite, bah du coup, cet été, j'ai utilisé toutes les techniques qu'on utilise, nous les historiennes et les historiens. J'ai travaillé sur l'histoire de l'économie récente et notamment les modèles pour comprendre l'inflation qui ont émergé dans les années 1990. Pour ça, on n'a pas d'autres données que de faire des interviews. Donc, j'ai fait des interviews. On travaille aussi sur des données quantitatives. Maintenant, par exemple, si on veut comprendre l'évolution de tout ce qu'ont écrit les économistes depuis 100 ans sur la ville ou sur l'impôt, est-ce que trop d'impôts tue l'impôt ? Maintenant, on peut faire ça avec des techniques quantitatives, avec de l'intelligence artificielle. Et j'ai fait des archives. Et là où c'est intéressant, c'est que les archives que j'ai pu faire cet été, je me suis complètement fait rattraper par l'actualité. Je travaillais sur le fait que le président Nixon, dans les années 70, n'aimait pas les chiffres du chômage et avait réussi à faire virer les directeurs qui produisent ces chiffres, et ça s'est produit à nouveau cet été.
Ça s'est produit le 1er août, puisque Donald Trump a suscité un certain nombre de commentaires d'économistes, entre autres, mais pas uniquement. Il y a une inquiétude générale en raison, entre autres, de l'instauration de ces fameux droits de douane, mais aussi une autre de ces décisions qui a provoqué une autre onde de choc lorsque le 1er août, donc, il a annoncé le renvoi pur et simple d'Erica McAnterfer, qui dirigeait jusqu'alors le Bureau des statistiques du travail.
J'ai décidé de licencier Erica McAnterfer parce que je pense que ses chiffres étaient truqués, tout comme je le pensais avant les élections. Quelques jours avant les élections, elle a dévoilé de magnifiques chiffres pour Kamala. Je suppose que Biden, Kamala, avait présenté ces magnifiques chiffres pour tenter de faire élire quelqu'un d'autre que moi. Puis, juste après les élections, elle a présenté des chiffres bien plus mauvais. Pourquoi devrait-on se fier aux chiffres ?
Pourquoi devrait-on se fier aux chiffres ? C'est la question que pose de façon très rhétorique Donald Trump. Alors, Béatrice Charrier, vous vouliez insister sur cette actualité-là qui a marqué effectivement le tout de début de l'été. Pourquoi cette décision-là de licencier Erica McAnterfer est particulièrement alarmante, selon vous ?
Alors oui, ça dit plein de choses, et sur notre travail, sur la pertinence de notre travail, et comment ça peut éclairer ce qui se passe. Donc là, on a un politicien qui fait de la politique. Hein, donc, et donc, ce que disent les archives, c'est plusieurs choses. D'abord, cet événement, ça montre que souvent on dit les économistes pensent des idées. Ils sont keynésiens, autrichiens, etc. Là, c'est pas du tout ce dont on est en train de parler. Ils font aussi bien d'autres choses. Et une des choses très importantes qu'ils font, c'est le thermomètre de l'économie. Donc, c'est produire les données sur où est-ce qu'on en est en termes de chômage. Le BLS, ça produit aussi les chiffres sur l'inflation, le Consumer Price Index, etc.
Et donc, oui, je précise que le BLS, c'est l'équivalent de l'INSEE pour nous en France.
Exactement, voilà, qui produisent les chiffres du chômage, les chiffres de l'inflation, des chiffres très importants pour comprendre que font les politiques économiques ou quel est l'état du monde et où est-ce que le ressenti des consommateurs est conforme à ce qui se passe réellement. Donc c'est pas la première fois, c'est ce que montrent les archives. Donc Nixon a aussi essayé de faire virer les statisticiens en chef quand il était pas content, et de faire nommer un candidat républicain comme Trump essaye de, enfin pas un candidat mais un soutien républicain comme Trump essaye de le faire aujourd'hui. Et à l'époque, ce candidat républicain s'est montré un très bon chef du BLS. Il a fini directeur de l'Institut public, l'Institut national des statistiques. L'association américaine des statisticiens. Ce qui est très différent, en revanche, c'est que cette bataille qu'il y a eu à l'époque autour des chiffres du chômage, elle a conduit à des réglementations quelques années après pour protéger l'indépendance du chiffre. C'est-à-dire, par exemple, ces chiffres-là ne peuvent pas être circulés à n'importe qui, et par exemple pas au président des ministères ou au Sénat, etc. Donc il y a un espèce d'embargo. Les statisticiens n'ont pas le droit de communiquer quelques jours avant. Les responsables de partis politiques n'ont pas le droit de communiquer à l'avance et d'avoir ces chiffres à l'avance, etc. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est complètement différent, et c'est ça sur quoi on peut insister. Le contexte scientifique, c'est Trump qui supprime les bourses de tout le monde, Trump qui vient d'annoncer avant-hier que maintenant les visas de chercheurs en visite aux États-Unis seraient soumis à est-ce qu'ils critiquent ou pas la politique de Trump, etc.
Vous parlez d'un temps plus éloigné, vous parlez du rapport aux archives aussi, vous dites que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à cette situation-là. Dans un passé peut-être plus récent, déjà en 2016, cette inquiétude était très présente, hein, lors du premier mandat de Donald Trump, qui se doublait en plus, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, d'une crainte véritable aussi vis-à-vis du passage de ces données du secteur public à un secteur privé, une privatisation de la donnée qui était un véritable enjeu démocratique aussi, vous venez de nous l'expliquer, Béatrice Charrier. Cela pose aussi un premier jalon aussi de ce à quoi servent les économistes. Vous l'avez dit, on a vraiment cette figure des grands penseurs divisés en fonction de courants, d'écoles, etc. Mais c'est ce que vous nous dites, les économistes sont aussi des producteurs de faits. Sur quoi repose cette production? Et puis pourquoi est-ce un enjeu démocratique? Pourquoi est-ce un enjeu aussi de défiance vis-à-vis de l'opinion publique que d'insister sur ce rôle-là des économistes producteurs de faits?
Alors, c'est très important parce que, bon, vous avez cette maxime qui dit que, bah, si on casse le thermomètre, on n'est pas capable d'analyser les maladies. Donc, les faits, c'est la réalité. D'ailleurs, on dit qu'on est un peu dans une période de post-fait où on va tout remettre en question. À la fois, il faut comprendre deux choses et c'est ça que c'est compliqué. À la fois, l'histoire montre que les faits sont construits. Sont socialement construits. C'est-à-dire, le chômage, il n'y a pas une réalité objective du chômage, il n'y a pas une réalité objective des prix. Ça dépend de... Et là, Trump, il conteste la manière dont c'est mesuré, dont on peut changer les mesures. Et il y a des batailles politiques sur comment changer les mesures. Donc c'est... Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la science, par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains consensus des scientifiques sur, par exemple, comment est-ce qu'on mesure l'impôt, comment est-ce qu'on mesure l'évolution des prix, etc. Et si il n'y a pas d'indépendance sur la manière dont c'est fait, d'abord, c'est pas comparable sur le plan international. Les États-Unis sont loin d'être les seuls à faire ça. La Chine, au fur et à mesure que la productivité et que la croissance ralentissent, supprime des séries. Et on sait que quand ces thermomètres disparaissent, on a des problèmes. Par exemple, les historiens ont montré que, parce que ça intéressait plus trop les économistes et le grand public, à un certain moment, les données sur les inégalités de salaire et de richesse. À l'époque, c'est pas que les inégalités intéressaient pas les économistes, mais ils s'intéressaient aux inégalités entre qualifications pour les salaires, entre race, entre genre, etc. Et ces données n'étaient plus produites. Et comme ces données ne sont plus produites, on n'a pas pu voir l'augmentation de certaines inégalités avec le top 1% ou le top 10%. Et ça montre bien que pour avoir des débats publics sur des phénomènes, il doit y avoir cette production et des discussions scientifiques sur c'est quoi une bonne production de données. Elle ne peut jamais être complètement objective. Et c'est quoi une mauvaise production de données?
Il y a donc cette première étape finalement de la production de la matière première, que seraient les chiffres, que seraient les données. Il y a aussi la façon dont les économistes vont chercher à les traiter, à les agréger aussi toutes ensemble, ce qui permettra ensuite de les analyser. Et vous l'avez dit, Béatrice Charrier, de produire un certain nombre de politiques publiques lorsque cela s'impose. Ce passage, finalement, de la donnée brute, quelque part, en une donnée agrégée, là aussi, ça constitue un biais en soi. C'est une manipulation que mènent les économistes, mais là, encore, et ça a été beaucoup reproché aux économistes, cette idée d'agréger certaines données, d'en faire ensuite soit des lois, soit des instruments en tant que tels, ce n'est pas neutre non plus. C'est aussi en cela que faire cette histoire de l'économie permet de comprendre ce que les économistes choisissent, entre guillemets, de voir ou non.
Alors, soit les économistes, soit ce à quoi répondent les sociétés et les pouvoirs publics. Un bon exemple, par exemple, c'est le PIB. C'est très critiqué aujourd'hui parce que c'est une mesure de la uniquement de la richesse qui ne prend pas en compte d'abord le bien-être. Et puis, on le sait aujourd'hui, des caractéristiques de santé, des caractéristiques climatiques, plein de choses qui font que la vie est meilleure, et c'est comment définir meilleure ou moins bonne, c'est exactement l'enjeu. Mais les économistes ont toujours produit, par exemple, quelque chose qui s'appelle l'IDH, un indicateur de développement humain qui a toujours été plus complexe, voire même des mesures très multicritères. Et après, les sociétés se saisissent d'une mesure ou d'une autre, parfois parce qu'elle est simple. Par exemple, le taux de pauvreté, c'est le nombre de personnes qui vivent avec moins de 1 ou 2 dollars par jour. C'est peut-être pas la meilleure mesure, mais c'est une mesure qui marque les esprits aussi. Donc en fait, c'est un espèce de dialogue entre ceux qui produisent les données, les économistes, et qui les utilisent dans leurs modèles, par exemple, et puis ceux qui les utilisent, que ce soit le privé, le public, les sociétés, les politiques, etc.
C'est important d'insister sur cette simplicité telle que vous l'évoquiez, parce qu'on a beaucoup dit, voilà, vous avez évoqué le cas de la Chine, on a évoqué le cas de Donald Trump aussi, mais il y a aussi une défiance de l'opinion publique beaucoup plus générale vis-à-vis de ces données. Il ne faut peut-être pas nécessairement associer cette défiance-là à un personnage, à un politique spécifique. Il y a quelque chose de très communément partagé et finalement d'assez naturel. Non, tout le monde ne comprend pas la façon dont sont construits certains indices. Ça aussi, c'est un enjeu démocratique. C'était aussi un enjeu en 2016, quand il y avait déjà eu cette problématique-là. Finalement, mieux expliquer ce qui relève de la construction de ces indices, c'est aussi de ce point de vue-là un enjeu démocratique. Et je vous pose la question notamment parce que, encore une fois, dans les années 2016, c'était cette question de, finalement, quand on essaie de comprendre les conséquences de la mondialisation, on choisit d'éclairer tel phénomène plutôt que les conséquences sur des populations spécifiques. Et ça produit aussi de la défiance, de choisir d'analyser des phénomènes selon certains points de vue, selon certains économistes. Mais là, Béatrice Charrier, il faut nous expliquer, c'est pas une question d'opinion des économistes, c'est vraiment une question d'outils, d'instruments qu'ils utilisent.
Oui, tout à fait, c'est une question. Alors déjà, il y a une alternance entre données publiques et données privées, c'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on a parlé uniquement de la statistique publique. Donc, l'enjeu, c'est que la statistique publique dans ces pays-là reste indépendante. C'est-à-dire que si chaque gouvernement a le loisir de chercher, de changer, comme il cherche systématiquement à le faire, encore une fois, c'est la mesure du chômage pour l'arranger pour que les chiffres aient l'air bons, on n'a pas de continuité. Donc, il y a vraiment un enjeu de continuité, de produire des faits au-delà de la politique. C'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, il y a en général en ce moment, même si c'est remis aussi en cause par Trump, une indépendance des banques centrales. Il y a toute une recherche qui montre que c'est pas une bonne chose que, en général, la science et par exemple les données économiques soient soumises au cycle politique. Ça, c'est une première chose. Mais maintenant, pour savoir ce que pourraient faire les politiques publiques ou ce que font les transformations sociales, on a aussi besoin de données qui sont privées. C'est-à-dire que l'essentiel des données aujourd'hui, on enregistre votre moindre comportement de consommation. Vous cherchez un stage, vous cherchez un logement, vous networkez sur LinkedIn, vous achetez quelque chose sur Amazon, tout est enregistré. Et ces données-là, elles sont privées, en fait. C'est ces données-là qui permettent de comprendre tous vos comportements économiques et qui permettent aussi, éventuellement, de les manipuler. Donc, non seulement ces données sont de plus en plus importantes, elles existent, mais en plus, elles ne sont pas publiques, elles ne sont pas soumises donc, aux mêmes chartes d'utilisation.
On a évoqué brièvement l'existence de modèles, de la modélisation en économie. Finalement, c'est un outil, un instrument qui permet de tirer quelque chose de ces données. Béatrice Charrier, il faut peut-être là nous expliquer ce que sont les modèles en économie. Tout le monde n'a pas forcément mis le nez aussi dans l'importance que cela a eu pour la construction, la fabrique de cette discipline. Alors très concrètement, comment fonctionne un modèle? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle en économie?
Alors la modélisation, c'est l'autre grande activité des économistes. Ça s'est un peu développé au XXe siècle, donc avant... L'activité des économistes, c'était même pas vraiment considéré comme une science, c'était considéré comme une sous-branche de la philosophie, hein, ce qui s'appelle l'économie politique. Donc, on écrivait des gros livres, par exemple Adam Smith, hein, La richesse des nations, mais des siècles avant, par exemple en Inde, l'Arthashastra, qui était un des premiers traités d'économie politique. Donc, on n'est pas du tout les premiers en Occident. À partir du XXe siècle, on se pense plus comme une science, et puis on essaye de faire donc des modèles, donc c'est-à-dire des formes un peu simplifié pour comprendre comment marche l'économie. Donc les premiers modèles qu'on a fait, c'est par exemple des machines. Genre il y avait des machines, par exemple une machine qui s'appelle le Moniac, on remplissait d'eau en fonction des dépenses publiques, on enlevait de l'eau en fonction des impôts et on regardait ce qui se passait en termes de flux littéralement physique d'argent dans l'économie. Maintenant, on ne fait plus trop ça. L'économie a été mathématisée à partir de la Seconde Guerre mondiale, en empruntant, et ça a été tout un débat, est-ce que c'est bon d'emprunter ces mathématiques-là à la physique, ou à la bio, ou à l'ingénieur, ou même à la médecine, qu'est-ce qui marcherait le mieux? Et donc, ce qu'on appelle un modèle aujourd'hui, c'est un ensemble d'équations mathématiques qui permet de simplifier l'économie pour mettre l'accent sur le fonctionnement de, par exemple, si j'augmente le salaire minimum, est-ce que ça va créer du chômage? Si j'augmente les impôts, est-ce que trop d'impôts tue l'impôt? Et est-ce que, du coup, ça va augmenter les recettes de l'État ou diminuer les recettes de l'État, qu'est-ce que ça va faire sur la dette? Donc, c'est des ensembles d'équations qui permettent de répondre à ces questions.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné un contexte précis qui est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale. Oui. Peut-être que là aussi, il y a un effet de contraste qui est intéressant. On mentionnait une forme de défiance de l'opinion publique, une forme aussi de refus de la part de certains hommes politiques que de vouloir laisser la donnée, on va dire, une forme d'indépendance. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est presque tout l'inverse. Il y a cette idée que l'expertise économique, pour le coup, quasiment sacré. Pour quelles raisons, Béatrice?
Alors, absolument. Les quatre années de la Seconde Guerre mondiale, en Europe et aux États-Unis, c'est un choc positif de confiance envers les États-Unis qui est assez unique. Pourquoi? Parce que dans la Seconde Guerre mondiale, de manière très vite, comment se gagne une guerre? Un peu sur la propagande et sur la stratégie militaire, beaucoup sur la stratégie militaire, mais aussi sur la capacité à allouer les ressources de toute une économie, que ce soit le personnel, les métaux, l'agriculture, l'argent dont un pays dispose, à l'effort de guerre de la manière la plus efficace possible. Et ça, c'est exactement le travail des économistes, c'est comment allouer de manière la plus efficace tout ce que vous voulez pour créer un effort de guerre. Et tout en, comme il y a des pénuries de guerre, essayant de faire en sorte que les prix n'explosent pas, qu'il n'y ait pas de grève, qu'il n'y ait pas de contestation sociale, etc. Et ça, ça a extrêmement bien marché en Europe et surtout aux États-Unis à l'époque. Et donc, les économistes en 39 par rapport aux économistes en 44, les pouvoirs publics comprennent très bien que les économistes ont contribué vraiment à permettre à ces pays de gagner la guerre. Elle leur donne un statut spécial dans le monde entier. Maintenant, vous avez, donc depuis la 44, aux États-Unis, des conseils d'analyse économique. Vous n'avez pas de conseils d'analyse sociologique, psychologique, historique, etc., etc. Donc on voit que les économistes ont acquis ce statut à part. en fait.
Est-ce qu'il faut aussi comprendre cette acquisition de ce statut à part, cette sorte d'âge d'or aussi de l'expertise économique, comme une nouvelle façon d'appréhender cette science économique ? Est-ce qu'on se dit, on a bien compris que c'est une science de la production, elle aide à quantifier, elle aide à prévoir, elle aide aussi à se représenter le monde d'une certaine manière, notamment grâce aux chiffres. Est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on se rend aussi compte que c'est une science de la décision ? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, oui, l'économie peut aussi servir à cela, peut aussi apprendre la meilleure décision politique publique possible.
Oui, tout à fait. Alors, c'est inscrit dans, par exemple, ça va être inscrit dans les lois américaines que les économistes doivent aussi aider, et c'est la première fois qu'il y a ce niveau d'interventionnisme, la puissance publique à stabiliser l'inflation et l'emploi, par exemple, c'est nouveau. Et donc, quand on dit aider à prendre les décisions, c'est assez compliqué parce qu'il faut comprendre les causes, et on a fait beaucoup, par exemple, beaucoup de progrès techniques sur comment essayer de comprendre les causes de si on bouge telle ou telle chose. Et puis surtout, on parle de politique publique, donc il faut pouvoir les évaluer avant. Si vous voulez augmenter un impôt ou diminuer un impôt, il faut pouvoir simuler à l'avance qu'est-ce que ça ferait et surtout, il faut pouvoir évaluer après est-ce que ça a marché ou pas. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et en plus, en termes de culture publique ou de culture des pays, c'est toujours un chantier, par exemple en France, de dire on va faire de la politique économique ou on va aussi aider des entreprises. Mais dans les deux cas, on doit être capable d'évaluer si ça a marché. Et ces modèles servent aussi à ça.
Béatrice Charrier, on a beaucoup parlé finalement toutes les deux d'une idée d'une économie appliquée. C'est une économie très concrète qui, on le voit, a des implications sur la vie au quotidien aussi des citoyens, des citoyennes. Vous évoquez aussi la figure d'Adam Smith qui, pour le coup, n'est plus du tout sur ce champ-là. Est-ce que parce que, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette économie très concrète prend de l'importance et de la légitimité, est-ce qu'on peut parler pour autant, on va dire, d'un effacement, d'un recul de la théorie par rapport à cette économie très mathématique, très informatique aussi ?
Non, alors effectivement, il y a une manière simple de voir l'économie, c'est l'histoire de l'économie au XXe siècle, c'est de dire l'économie est devenue appliquée parce que il y a plus de données, il y a plus d'informatique. Bon, je connais ces théories, ça n'est pas exact. D'abord, en fait, l'économie a toujours été très appliquée. Avant, c'était pas aider l'économie globalement, mais par exemple, il y a toujours eu beaucoup d'économie agricole. Enfin, la statistique a littéralement débuté parce que on cherchait à savoir quels étaient les rendements des tels pesticides, tels fertilisants, etc. Donc on a toujours, ça a toujours été appliqué. En fait, la période après la Seconde Guerre mondiale est plutôt une exception de l'ordre de 30-40 ans, où avant on avait beaucoup de données, de recherches appliquées, aussi de théories. Hein, tout le monde pense à Keynes et c'était très présent. Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie entre les deux. Ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, c'est que beaucoup de physiciens ont émigré aux États-Unis, notamment de physiciens juifs, sont devenus des économistes, ont utilisé leurs objets et ça a rendu extrêmement prestigieux certains types de mathématisation très complexes et certains types de théories. Et la théorie est devenue pendant 30 ans plus prestigieuse que l'économie appliquée. Aujourd'hui, à partir des années 80-90, on voit une réinversion, enfin un rebalancement. L'informatique est évidemment très importante, mais ce qui est très important, c'est que l'informatique, la technique ne détermine pas quels sont le succès. Disons que c'est une condition nécessaire, n'est pas suffisante. D'abord, je l'ai déjà dit, ça permet de produire des données et ça permet d'avoir de nouvelles techniques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont acceptées. Typiquement, par exemple, l'informatisation, ça permet de faire beaucoup de simulations. Donc, vous prenez des individus, vous leur donnez des règles simples et puis vous les regardez interagir à un niveau. Ça s'est toujours fait beaucoup en physique nucléaire, ça se fait beaucoup en bio, ça se fait toujours assez peu en économie. Donc, ça ne suffit pas du tout, l'informatique.
Ce que vous voulez dire, Béatrice Charrier, parce que c'est vrai qu'on serait en droit de se dire, bon, voilà, à partir du moment où les premières machines ont commencé à permettre de modéliser, lui faire manger des données, vous pouvez prendre une semaine, deux semaines dans les années 50, aujourd'hui c'est quelques secondes peut-être pour parvenir à traiter un très grand nombre de données. Ça, ce progrès technique-là n'a pas d'incidence spécifique sur l'usage ou en tout cas l'emploi à la fois qualitatif et quantitatif de l'économie en tant que telle. Pas eu d'incidence majeure, on va dire, des progrès technologiques.
Non, si, ça, bien sûr, ça a une incidence majeure, mais elle est indéterminée. C'est pas parce que vous avez plus d'ordinateurs que l'économie devient d'une part plus scientifique ou que telle technique devient d'emblée supérieure. Par exemple, une technique qui s'est énormément développée ces 40 dernières années, qui vient, elle, de la médecine, c'est ce qu'on appelle les expériences randomisées en développement. C'est-à-dire que vous prenez deux villages, vous voulez savoir comment scolariser plus d'enfants. Est-ce que c'est en les traitant contre les vers? Est-ce que c'est en leur donnant plus de moustiquaires? Est-ce que c'est en donnant plus de profs ou plus de manuels? Vous pouvez comparer ça, un peu comme si vous administrez un médicament. Bon, c'est comparer des moyennes. Il n'y a pas besoin d'informatique et pourtant ça s'est développé. Donc l'informatique, la technique en elle-même, elle est importante. Mais ça ne dit rien de dans quelle direction va l'économie, si elle est plus scientifique, et surtout comment vont être utilisés tous ces outils par les entreprises, les pouvoirs publics et les sociétés.
Alors, je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un qui a vécu ces changements techniques, technologiques aussi. C'est la voix de Michel Aglietta qui s'exprimait en 1982 sur France Culture.
Avant d'être dans l'enseignement, je dois dire que j'étais un praticien de l'économie puisque j'ai une première formation, une formation initiale dans l'administration française, plus exactement à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à une époque où je travaillais dans le cadre de la planification française, disons à la fin des années 1960. J'ai, dans le cadre de la planification, participer à l'élaboration d'un certain nombre de modèles, vu l'usage des instruments qui sont utilisés dans le cadre de la politique économique, planification étant finalement politique économique à un horizon plus lointain que la politique au jour le jour, ce qu'on appelle le moyen terme. Et c'est une réflexion sur la limite de ce genre d'instruments et les problèmes qu'ils posaient qui m'ont amené à rechercher des modes de représentation et une des interprétations de la croissance qui était finalement le grand problème et la grande réalité de cette époque, puis ensuite de la crise dans laquelle on est rentré au début des années 70 par une investigation plus théorique, effectivement.
Voilà, Béatrice Cherrier, on entendait là un résumé de ce qu'on vient d'évoquer, finalement, à la fois l'importance d'avoir des modèles, des statistiques avec lesquelles travailler, mais aussi l'importance d'un air du temps, d'un contexte historique qui joue beaucoup. Là, en l'occurrence, c'était celui de la planification et puis d'une culture nationale française aussi, qui produit certains chiffres, qui a les administrations, les institutions nécessaires pour les présenter et les gérer. Ça, tout ça s'est résumé un peu dans le parcours de Michel Aglietta. Cela dit, on pourrait se dire qu'il n'y a pas, vous l'avez mentionné, il n'y a pas que les données publiques, il n'y a pas que le secteur public, et que les économistes finalement ne décident pas du sujet sur lequel ils vont plancher par bonté d'âme ou parce qu'ils sentent que c'est dans l'air du temps. Il y a aussi une question très concrète de financement, alors que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe. Vous le dites dans un de vos articles, vous dites qu'à partir des années 80, le National Science Foundation, qui a été créé en 1950, finit par établir comme critère aussi de sélection des projets qu'il fallait que certains projets de la science économique aient une utilité et qu'on sache mesurer cette utilité-là. Ça, est-ce que cela a eu des conséquences, Béatrice Cherrier, sur ce qu'on disait aussi un peu plus tôt sur l'importance de l'économie appliquée notamment?
Oui, alors il y a toujours des conséquences et en même temps les économistes essayent, comme tous les scientifiques, hein, il y a beaucoup d'articles dans Nature aujourd'hui sur justement est-ce qu'on va vers une repolitisation des financements, il y aura plus de financement pour la recherche en environnement, etc. C'est un vrai souci. Donc ce qui s'est passé dans les années 80 et donc évidemment tout est dans le comment est-ce que vous définissez, c'est quoi l'utilité publique, notamment dans les années 80, donc la NSF qui déjà avait été créée sans financement pour l'économie, qu'avec des sciences dures parce que justement l'économie n'était pas assez une science,
oui,
donc ça avait poussé
temps,
les économistes
ans, oui.
à se scientifiser. Décide que, par exemple, évidemment, son idée, c'était de, il fallait vraiment prouver qu'une politique publique ou qu'une réglementation ou qu'une contrainte ait vraiment un effet positif économique avant de pouvoir la mettre en œuvre. Ce qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice pour limiter la taille de l'État, si je vais extrêmement vite. Et du coup, ce qu'ont fait les économistes en réponse à ça, du coup, ça redimensionne. Alors, les politiques arrivent rarement à très directement influencer dans le sens qu'ils veulent la recherche. Vous pouvez toujours financer 22 fois des choses qui seront, par exemple, directement, qui disent que le marché, c'est meilleur que n'importe quelle intervention de l'État. Ça ne va pas se passer comme ça. En revanche, une réaction dans les années 80, par exemple, ça a été de financer ce qu'on appelle l'essor du market design, c'est-à-dire de se dire, ah, il y a quand même des choses qui sont utiles dans les calculs de marché qu'on pourrait répliquer, même si on ne privatise pas des choses. On va répliquer la manière dont certaines choses sont allouées par le gouvernement. Par exemple, les spectres de télécommunications, si vous voulez une fréquence, si vous voulez être un opérateur téléphonique. Ce que faisait à l'époque, c'était de la réglementation. Et puisque Reagan a contraint la manière de financer, les gens se sont mis à réfléchir sur « Ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas allouer ces fréquences par des enchères, par exemple ? Et est-ce que c'est plus efficace ? Est-ce que ça réplique assez bien les mécanismes du marché ?» Et par exemple, les financements ont du coup eu cet effet indirect que les économistes se sont plus intéressés à « Est-ce qu'on peut savoir quel type d'allocation, quel type d'enchère, quel type de manière d'allouer louer tel bien, même des reins, hein, c'est pas forcément un marché, etc. Est-ce qu'on peut créer des chaînes de donations, etc. Al Ross a eu le prix Nobel pour ça. Ça, c'est une conséquence des indirectes et peut-être en partie non souhaitée des transformations des financements.
Et puis c'est ce qui amène aussi à ce que certains domaines, certains champs de l'économie apparaissent à la faveur de circonstances favorables, disparaissent également une fois que les problèmes on va dire publics ont été résolus ou en tout cas disparaissent du champ de vision. Béatrice Chariot, vous êtes également penchée sur ce qui fait qu'une idée en économie, mais aussi ailleurs dans les autres sciences, prend ou non. J'étais assez étonnée de découvrir que c'était pas le fruit du hasard, qu'il y avait un calcul aussi, une stratégie derrière, et que c'était le fruit de recherches assez finement menées, avec cette idée que pour qu'une idée prenne, il y a toute l'idée d'un marketing à mettre en place, d'une simplification aussi pour que le public puisse se l'approprier, et c'est ce qui permet de comprendre aussi, par exemple, le succès, entre autres, des travaux de Piketty, pourquoi ça a pris en France plutôt qu'ailleurs. Tout ça, c'est quelque chose qui a été presque quantifié. C'est pas un hasard pour qu'une idée prenne ou non en économie.
Alors Piketty, justement, c'est intéressant parce que ça n'a pas pris en France. C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de réfléchir qui est assez française, de réfléchir sur la taxation, d'utiliser ce type d'outils. Donc on a vraiment une école française de l'économie publique à cause de la planification, à cause de, par exemple, cette tradition que Michel Aglietta a mentionnée, dont certains ont trouvé qu'elle avait des limites, mais qui était assez prestigieuse, des économistes ingénieurs. Mais il a publié son livre en France, ça n'a pas eu de répercussions. Et une fois qu'il a publié son livre aux États-Unis, où il y avait du coup déjà un terreau assez fertile pour repenser les inégalités, ça a eu une répercussion mondiale. Ça illustre bien le fait qu'effectivement, il y a des économistes qui ont des stratégies qui sont hyper bien pensées, interpersonnelles. C'est-à-dire, par exemple, moi, je travaillais sur ce qui a fait beaucoup pour la réputation des économistes après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, c'est le fait que Kennedy mette en place pour augmenter la croissance une diminution des impôts. Okay. Alors que ce n'était pas populaire à l'époque, à un conseiller qui s'appelle Walter Heller qui lui a susurré dans son oreille. Des fois, c'est beaucoup plus indirect, c'est des gens qui récupèrent des outils, qui voient en conférence, etc., et qui les transportent, et c'est beaucoup plus arbitraire.
Merci infiniment, Béatrice Chariot. On voit que ce champ est extrêmement large, que celui de l'histoire, de l'économie, de la pensée, de la façon dont naissent les idées. Je renvoie évidemment les auditrices, les auditeurs vers votre blog qui sera indiqué sur la page du site d'Entendez-vous l'écho.
France Culture, Entendez-vous l'écho. Aliette Ovine.
Nous avons évoqué les liens nécessaires entre passé et présent, et c'est également ce que fera, je le disais désormais tous les lundis, Arnaud Aurin, qui tire pour nous le fil de l'écho, 3 minutes 30 pour nous dévoiler la trame de certains événements qui font notre actualité, mais trouvent un certain écho dans un passé parfois lointain. Et aujourd'hui, Arnaud, vous nous expliquez que voir des dirigeants d'entreprises tels que les Elon Musk, Zuckerberg et consorts se préoccuper non seulement de leurs affaires, mais aussi instaurer leur propre vision de la diplomatie, bref, devenir des quasi-états souverains, n'est pas chose entièrement nouvelle. Loin de là.
En 2017, le Royaume du Danemark nommait en Californie un ambassadeur de la tech et l'Union européenne lui emboîtait le pas en 2022 avec la création d'une représentation à San Francisco. Les entreprises de la Silicon Valley semblent ainsi devenues si puissantes qu'elles sont en mesure d'imposer leur agenda au pouvoir public et pas seulement en ce qui concerne la gestion et la protection de nos données numériques, loin de là. Voilà pourquoi aujourd'hui, les firmes géantes du numérique ne sont plus des entreprises traditionnelles, mais de quasi-États. Ce qui est le plus marquant, en effet, c'est la dualité de ces nouvelles firmes. Ce sont des monopoles, ou de quasi-monopoles, qui sont à la fois marchands, ils vendent du contenu et des outils numériques, du transport de marchandises ou des automobiles, et à la fois souverains, au sens où ils possèdent des prérogatives jusqu'ici réservées aux États. D'abord, depuis une quinzaine d'années, ces géants de la tech peuvent intervenir dans un domaine régalien par excellence, la guerre. On sait qu'Elon Musk et ses satellites Starlink sont partie prenante du conflit en Ukraine. À Taïwan, le même Musk, qui ne veut pas se fâcher avec la République populaire de Chine, est réticent à ce que les armées américaines et taïwanaises utilisent son réseau. Satellites, fusées spatiales, câbles sous-marins, les firmes de la tech deviennent désormais des maîtres des infrastructures du capitalisme mondial. Ensuite, la puissance économique de ces entreprises est si forte que leurs investissements dans tel ou tel État conduisent leurs patrons à être reçus au même niveau protocolaire que des chefs d'État. Enfin, avec la nouvelle législation sur les stablecoins, ces crypto-monnaies adossées à une devise, ces géants de la tech vont bientôt pouvoir émettre leur propre monnaie, pour le moment adossée au dollar, et ainsi ajouter un attribut quasi-souverain à leur palette de pouvoir. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, autrefois Facebook, était lucide sur ce point lorsqu'il déclarait en 2018 qu'à bien des égards, Facebook ressemble davantage à un gouvernement qu'à une entreprise traditionnelle. Or, cette forme institutionnelle a déjà existé dans l'histoire. C'est celle des compagnies à charte, et plus précisément celle des compagnies des Indes des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour mieux comprendre les conflits actuels de souveraineté entre États et compagnies-États, c'est aux compagnies des Indes anglaises, néerlandaises ou françaises qu'il faut revenir. Car ces institutions mélangeaient une dimension marchande, elles achetaient des produits et des personnes esclavagisées et les revendaient ailleurs ou les faisaient travailler en Asie et dans l'océan Indien, avec une dimension souveraine. Leurs navires étaient des machines de guerre. Elles possédaient des armées, signaient des traités avec les puissances locales, levaient des impôts, administraient des populations et battaient monnaie. Les compagnies des Indes étaient dans un rapport de complémentarité et de concurrence avec leurs gouvernements respectifs. Tantôt elles prêtaient des navires à leurs souverains pour faire la guerre, tantôt elles réalisaient des conquêtes sans l'aval de leur gouvernement, pour leurs propres intérêts, en provoquant la colère de Londres, Amsterdam ou Versailles. Ce jeu de concurrence et de complémentarité est au cœur des nouvelles compagnies des Indes, que sont les firmes de la tech. Leurs intérêts ne recoupent pas toujours la stratégie géopolitique du gouvernement américain. Par exemple, la tentative de découplage des chaînes de valeur d'avec la Chine ou l'indépendance de Taïwan. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une fragmentation et une multiplication d'acteurs souverains, dont des firmes privées, ce qui n'est pas sans nous faire penser aux dystopies de l'univers cyberpunk.
Le Fil Culture G, c'est un nouveau podcast auquel vous pouvez vous abonner sur l'application Radio France. Un grand merci Arnaud Aurin et on vous retrouve lundi prochain.